Vous écoutez, on lit pour vous.
Le modèle de l'école à la maison chez les Juifs hassidiques fonctionne, selon une étude. Un texte de Jessica Nadeau paru le 17 décembre 2024 dans Le Devoir. Le droit de l'enfant à l'éducation apparaît mieux respecté depuis que les communautés juives hassidiques font l'école à la maison, selon la chercheuse Christine Brabant de l'Université de Montréal, qui s'est penchée sur ce modèle unique au monde. Les tensions du début du présent siècle relativement à l'éducation des jeunes des communautés hassidiques de Montréal semblent se dénouer grâce à l'adoption d'un modèle éducatif conjuguant l'enseignement à la maison, la fréquentation de centres communautaires hassidiques, une offre de soutien scolaire et une supervision ministérielle, écrit Mme Brabant en conclusion de son rapport qui fait plus de 230 pages. Ce modèle éducatif québéco-hassidique est, à notre connaissance, unique au monde, innovateur et, selon les résultats de cette recherche, satisfaisant, poursuit-elle. En effet, notre analyse de cette situation a permis d'en apprécier les qualités sociales, éducatives, pédagogiques, politiques et éthiques. Les résultats de cette démarche d'analyse sont généralement positifs, tout en révélant les conditions de réussite et les zones de vulnérabilité de certains aspects de la situation étudiée. La recherche menée par la chercheuse en partenariat avec l'Association éducative juive pour l'enseignement à la maison a été financée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Madame Brabant était responsable du volet scientifique et l'association s'engageait à lui donner accès aux participants et à mobiliser des ressources pour soutenir la démarche, explique la chercheuse en entrevue au Devoir. Malgré ce lien, elle répond que sa recherche est totalement indépendante et soutient que le comité d'éthique de la recherche de l'université s'est assuré de cette indépendance. Contenu conforme au programme. C'est en 2016 que les communautés des Satmar, des Wisnitz et des Xver de Montréal ont décidé d'opter pour l'enseignement à la maison. À l'époque, plusieurs écoles privées juives étaient sous la loupe du ministère, car elles ne se conformaient pas au programme. Depuis, les jeunes font des études religieuses le matin et du tutorat et de l'aide aux devoirs en après-midi dans leurs anciennes écoles, devenues des centres communautaires. Les mères prennent le relais pour faire l'école à la maison les soirs et les fins de semaine. Ce sont elles qui sont responsables de fournir au ministère le projet d'apprentissage et de prouver, travaux scolaires et évaluations à l'appui, la progression de leurs enfants. Selon ces documents et nos observations, les enfants étudient les matières suivantes: anglais, français, mathématiques, sciences et technologies, univers social, constate Christine Brabant. Le contenu enseigné est conforme au programme de formation de l'École québécoise, PFEQ. Écart chez les garçons. L'étude démontre que la majorité des élèves participants étudient au niveau habituellement prévu pour leur groupe d'âge dans le PFEQ, et ce, dans toutes les matières. Mais le niveau scolaire des filles respecte davantage le niveau scolaire prévu que chez les garçons, constate Mme Brabant. Ces écarts apparaissent généralement à partir du troisième cycle du primaire, c'est-à-dire chez des enfants n'ayant pas connu la formule d'enseignement à la maison dès le début de leur scolarité, peut-on lire dans la synthèse du rapport. L'écart se creuse davantage au niveau secondaire, où les garçons accusent parfois 2 ou 3 ans de retard, particulièrement en français, qui constitue souvent leur 3e ou 4e langue. Cet écart s'explique notamment par le fait que, selon l'enseignement traditionnel, les garçons font davantage d'études religieuses, ce qui leur laisse moins de temps pour les études séculières. En entrevue avec la chercheuse, plusieurs mères ont dit être heureuses de voir que leurs enfants auraient une meilleure éducation, particulièrement pour leurs garçons, rapporte Mme Brabant. Les mères le disaient, Elles étaient contentes de voir que ça ouvrait des horizons à leurs garçons. Selon elles, l'expérience des parents dans ce nouveau modèle éducatif apparaît très positif, car ils se sentent autonomes dans leur rôle et perçoivent une cohérence entre leurs propres valeurs et leurs actions. Elle ajoute que les parents expriment un engagement et une aisance dans les rôles de parents éducateurs en ressentant du plaisir et de la fierté par rapport à cette responsabilité nouvelle. Mais certains expriment néanmoins une insatisfaction par rapport aux exigences administratives du ministère. En 2023, les maires soulignent qu'au cours des dernières années, les exigences du ministère n'ont fait qu'augmenter, entraînant davantage de tâches autres que l'enseignement ou la facilitation de l'apprentissage des enfants, note Mme Brabant. Un exemple à suivre. Sur le plan de la gouvernance, la chercheuse constate qu'il y a des défis internes au sein de l'Association éducative juive pour l'enseignement à la maison et des résistances institutionnelles du côté du ministère. Une méconnaissance réciproque due à un manque de communication nuit à l'organisation de l'éducation des jeunes et à la reconnaissance des efforts les uns des autres, écrit-elle. Elle recommande notamment la reprise de la table de concertation nationale en matière d'enseignement à la maison pour permettre un meilleur dialogue. Elle estime néanmoins que le choix de l'enseignement à la maison est conforme aux lois et satisfaisant eu égard aux normes sociales, administratives et religieuses des différentes parties. Elle croit même que ce modèle pourrait être une source d'inspiration. L'exemple de la politique québécoise en matière d'enseignement à la maison et son application dans le modèle éducatif québéco-assidique pourrait nourrir l'étude des politiques étatiques visant à soutenir le droit à l'éducation des enfants de communautés culturelles ou religieuses minoritaires qui ne se reconnaissent pas dans le système scolaire de la majorité. C'était « Le modèle de l'école à la maison chez les Juifs assidiques fonctionne ». Selon une étude, un texte de Jessica Nadeau paru le 17 décembre 2024 dans Le Devoir.
Apprendre à ne rien savoir, ou presque. Un texte de Paul Journet paru le 4 janvier 2025 dans La Presse. Oh, tu devrais acheter ce livre pour ton ami. Au Salon du Livre de Montréal, Martin Desrosiers entendait souvent la remarque devant le présentoir de son excellent essai « L'art de ne pas toujours avoir raison ». On connaît en effet tous quelqu'un qui gagnerait à découvrir les charmes insoupçonnés de l'humilité. Mais il y a une personne en priorité à qui chacun devrait offrir ce livre, soi-même. Car c'est notre propre ignorance que nous peinons le plus à reconnaître. Et c'est aussi celle qui nous fait le plus mal, démontre le philosophe dans son essai, qui s'appuie en bonne partie sur Montaigne. Depuis sa parution, il y a près de 20 ans, le petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Baillargeon est un ouvrage de référence pour apprendre à démasquer les sophismes, les pseudo-sciences, les charlatans et les manipulateurs. Le livre de Desrosiers mérite lui aussi de devenir un incontournable. Il complète le travail en nous aidant à retourner la pensée critique contre nous-mêmes, afin de mieux nous connaître et vivre ensemble. Desrosiers, professeur de philosophie au Cégep, a grandi en Ontario. J'étais un francophone en Ontario, dans une école catholique, avec un programme scientifique. L'ambiguïté, je connais ça, raconte-t-il en interview. Après avoir approfondi la philosophie allemande au doctorat, il devient prof au Cégep. Ce livre tout court, 120 pages, est son premier. Nous sommes nombreux à être inquiets du débat public, explique-t-il, mais il met en garde contre les diagnostics superficiels. Les réseaux sociaux, ils exacerbent nos travers, mais il ne les crée pas. La polarisation? Le désaccord est normal, affirme Martin Desrosiers. C'est le propre de la démocratie. Le problème n'est pas qu'on se chicane trop, c'est qu'on se chicane mal. Il s'inquiète plutôt de la polarisation affective, soit l'écart entre les gens et non entre leurs opinions. Ceux qui ne pensent pas comme nous deviennent nos ennemis. Et plus on les écoute, plus nos désaccords se creusent. Parmi les diverses causes, Desrosiers en identifie une importante. Notre identité se confond avec notre opinion. Toute critique devient ainsi menaçante. Si on remet en question ce que je pense, on attaque qui je suis. Il est plus difficile de remettre en question une identité qu'une idée, ajoute-t-il, en s'appuyant sur l'essai « The Scout Mindset » de Julia Galef. Un bémol, toutefois. Par exemple, le racisme et le sexisme sont des menaces objectives contre une identité. Elles sont donc inévitablement vécues ainsi. Et il y a une sagesse à reconnaître un mauvais interlocuteur, nuance-t-il. Face aux trolls de mauvaise foi, mieux vaut s'abstenir. Il reste que ce n'est pas le cas de toutes nos disputes. Desrosiers note une ironie. L'époque s'ouvre à la fluidité pour le genre et l'orientation sexuelle. Or, l'inverse s'observe avec nos opinions, si rigides. On gagnerait à être aussi un peu plus fluide intellectuellement. Sans renier nos principes ou nos valeurs, on peut prendre une certaine distance face à soi-même pour s'examiner avec une curiosité critique. L'essayiste cite Montaigne. Il nous faut reconnaître que c'est par hasard que nous sommes qui nous sommes. Perdez un peu de temps sur YouTube à la recherche de votre penseur vedette préféré. Les algorithmes vous proposeront des vidéos de clash où un intellectuel détruit calmement son adversaire. Le débat est envisagé comme un combat et la rationalité est l'arme maîtresse. Une preuve parmi d'autres, le succès indémodable de « L'art d'avoir toujours raison » de Schopenhauer, traité de pugilistique rhétorique. La philosophie apprend à construire un argument, et c'est très bien. Mais ça ne suffit pas. A-t-on besoin d'aider les gens à rationaliser leurs certitudes? Il faut tout autant former le caractère intellectuel, soutient Desrosiers. Son ambition, former les gens à être des interlocuteurs décents et non de simples chamailleurs habiles. En classe, il demande à ses élèves de synthétiser honnêtement un argumentaire avant de le critiquer. Les procès d'intention ne sont évidemment pas admis. Comprendre, ce n'est pas donner raison ni normaliser, selon Martin Desrosiers. C'est une preuve de curiosité et d'empathie intellectuelle. Et ça renforce la crédibilité de la critique qui s'ensuit. Desrosiers ne plaide pas pour le relativisme ou pour le centre mou. Il n'est pas contre les opinions fortes, impopulaires ou radicales. Mais selon lui, peu importe la nature de nos idées, on gagne à faire preuve d'écoute et d'humilité. Ce sont des vertus cardinales pour se comprendre soi-même et se comprendre entre nous. Un passage cocasse du livre porte sur la maladie des Nobel. Nobel de la chimie, 1954, Linus Pauling a affirmé que la vitamine C pouvait guérir certains cancers. Nobel de la médecine, 2008, Luc Montagnier a avancé que l'autisme était une maladie bactérienne. Et ainsi de suite. Desrosiers distingue entre l'ignorance et la bêtise. La deuxième est plus grave. Il s'agit en fait d'une double ignorance. On ne sait pas qu'on ne sait pas. Pire, on en fait une certitude. C'est d'autant plus triste quand la personne avait les moyens intellectuels de voir clair. Mais la vanité aveugle, voilà une forme d'intelligence stupide, écrit Desrosiers en reprenant l'expression de Robert Musil. Il paraphrase aussi La Fontaine, pour qui l'humain est un lynx avec ses semblables et une taupe avec lui-même. Avec Desrosiers, le doute devient un outil de connaissance de soi et d'ouverture à l'autre. Son livre est un précieux condensé de sagesse. Le Québec irait mieux si un maximum de gens le lisaient. C'était « Apprendre à ne rien savoir ou presque », un texte de Paul Journet, paru le 4 janvier 2025 dans la presse.
Cette bouteille de vin est-elle celle que vous pensez? Un texte de Stéphanie Martin, paru le 28 décembre 2024 dans Le Devoir. Synonyme de raffinement et d'histoire enracinée dans le terroir, les grands vins attirent les collectionneurs et les fraudeurs. L'industrie vinicole est en effet ciblée par des escrocs qui font passer de la piquette pour des vins d'exception. Ce crime continue d'être alléchant puisqu'il est aussi rentable que peu risqué pour les fraudeurs, déplore l'experte en authentification de grands crus, Maureen Downey, surnommée la Sherlock Holmes des vins. Encore à l'automne 2024, Europol, l'agence européenne de police criminelle, a démantelé une vaste opération de contrefaçon de grands vins français que les fraudeurs vendaient 15 000 euros, environ 22 000 $, la bouteille. Le vin était fabriqué en Italie et les bouteilles, habillées de fausses étiquettes, l'une des nombreuses méthodes de contrefaçon utilisées par les criminels, devaient être livrées partout dans le monde à d'honnêtes négociants en vin qui croyaient avoir affaire à de vrais Bordeaux de qualité supérieure. Simple anecdote ou réel problème? Lorsque l'on demande à Maureen Downey, fondatrice de l'entreprise Che Consulting, quelle est l'ampleur de ce type de fraude, elle répond « Voilà une question que l'on se pose depuis longtemps. Si on le savait, cela voudrait dire qu'on a la situation en main, ce qui n'est pas du tout le cas, dit-elle en entrevue avec Le Devoir depuis la Californie. Elle signale que même des organisations terroristes font le commerce d'alcool contrefait, car c'est pour eux une façon rapide de faire de l'argent. Selon elle, une bonne estimation de la proportion de vins contrefaits serait de 20% des bouteilles se retrouvant sur le marché. Et contrairement à la croyance populaire, la fraude ne vise pas que les grands crus. Une bonne partie de ce pourcentage comporte des vins d'entrée de gamme, même de supermarché. Par exemple, il y a des tonnes de bouteilles Yellowtail contrefaites, dit-elle. Une bouteille de Shiraz de ce vin australien se détaille 13,05 $ au Québec. Si l'on ne parle que des vins haut de gamme, la proportion de faux serait plutôt de 5 à 10 %, précise alors l'experte. Vendre du vin contrefait est lucratif, dit-elle, est facile, parce que les chaînes d'approvisionnement sont très opaques. Tout le monde protège férocement ses sources, et même les gouvernements ne savent pas comment certaines bouteilles sont vendues, fait remarquer Mme Downey, dont le travail l'amène surtout à gérer des collections de vins privés. Elle signale que le crime organisé s'est aussi intéressé aux vins contrefaits, car les peines sont moins lourdes que pour d'autres types de trafic, comme la drogue ou la traite de personnes. Elle donne en exemple le cas du Russe Alexander Lugov, arrêté pour la première fois en 2017. Pour avoir vendu de faux Bourgogne, il a été condamné à 4 ans de prison en France avec une possibilité de libération conditionnelle après 2 ans. De grands fraudeurs. Rudy Kurniavan est probablement le plus grand fraudeur de vin de l'histoire. Maureen Downey le connaît bien. Elle a été engagée comme experte par le département de la justice américain qui a enquêté sur le flamboyant personnage pour ensuite l'inculper. L'homme s'est taillé une solide réputation de fin connaisseur dans les années 2000 aux États-Unis, alors qu'il organisait des dégustations raffinées et vendait d'importantes quantités de vins rarissimes. Ce sont deux hommes, aux champs d'intérêt bien distincts, qui ont allumé l'étincelle de cette enquête. Il y a d'abord eu Laurent Ponceau, à la tête du domaine vinicole du même nom. Il est resté perplexe en 2008 quand des millésimes des années 1940 et 1950 du Clos Saint-Denis ont commencé à apparaître sur le marché. Le chef du domaine sait fort bien que sa famille a commencé à embouteiller ce cru en 1982. Flairant l'escroquerie, il a mené sa petite enquête à l'instar du milliardaire américain Bill Koch. Ce dernier, fort mécontent d'avoir trouvé de fausses bouteilles dans sa collection, a engagé un détective privé. Le FBI s'en est mêlé alors que des experts en authentification de vin voyaient de plus en plus de bouteilles louches aux enchères. En mars 2012, la police fédérale américaine a fait une descente dans la maison californienne de Rudy Korniawan où a été trouvé un atelier de contrefaçon. Essentiellement, toute sa maison était un laboratoire de fabrication de faux vins, avait déclaré à l'époque l'agent du FBI Adam Roser. Il y avait de vieilles bouteilles immergées dans l'eau de l'évier, de la cire en train de durcir sur des bouchons et des étiquettes arborant des dates remontant jusqu'à 1899. Selon le FBI, Korniawan remplissait des bouteilles arborant de fausses étiquettes de grands crus avec des vins de moins grande qualité. Il en aurait vendu pour environ 45 millions de dollars. En décembre 2013, il a été trouvé coupable de fraude par un jury à New York et un juge l'a envoyé en prison pour 10 ans. Un autre cas qui a fait grand bruit est celui du négociant en vin allemand Hardy Rodenstock. Il a mis en vente des bouteilles qui auraient été trouvées à Paris derrière un mur recouvert de briques. Parmi le butin se trouvaient, selon ses dires, des bouteilles de la maison Lafitte de 1787, supposément destinées au président américain Thomas Jefferson, un grand amateur de vin qui avait été envoyé comme émissaire à Paris dans les années précédant la Révolution française. Des lettres avait été gravé maladroitement sur le verre. TH.J. Lafitte. Malgré les doutes exprimés par des experts, la maison Christie's de Londres a vendu en 1985 une de ses bouteilles à la richissime famille Forbes à un prix record pour l'époque de 362 000 $ en dollars d'aujourd'hui. Bill Koch, oui, encore lui, fait partie de ceux qui ont traîné Rodenstock devant un tribunal de New York après avoir acheté lui aussi des bouteilles Lafitte, dites de Thomas Jefferson. Il a notamment déposé une preuve d'expert selon laquelle les gravures sur le verre n'auraient pu être faites qu'avec un outil électrique qui n'existait évidemment pas au XVIIIe siècle. Un jugement a été rendu par défaut contre Rodenstock, c'est-à-dire en son absence, car il ne s'est même pas présenté en cour. En 2012, il s'est fait ordonner de payer des dommages à Koch. C'était « Cette bouteille de vin est-elle celle que vous pensez ?» un texte de Stéphanie Martin, paru le 28 décembre 2024 dans Le Devoir.
Pas de parité au cours du siècle actuel, selon un rapport, un texte d'Hélène Barry, paru le 5 mars 2024 dans la presse. Malgré les progrès accomplis, l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde des affaires n'est pas pour demain, et pas même pour ce siècle, constate un rapport de la Chambre de commerce du Canada, publié fin février 2024. La mauvaise nouvelle, c'est que le Canada est en retard sur la moitié des pays membres de l'Organisation pour la coopération et le développement économique, OCDE, qui regroupe les pays les mieux nantis pour la proportion de femmes dans des postes de direction. La bonne nouvelle, c'est que le Québec est, avec les provinces atlantiques, une province où les femmes sont le plus représentées dans les professions de gestion. Les femmes comptent pour 48 % de la main-d'œuvre totale, mais n'occupent que 35 % des postes de direction. Si les tendances actuelles persistent, la parité à l'échelle nationale ne sera pas atteinte au cours du siècle actuel, affirme le rapport intitulé « Des avancées timides, la lenteur des progrès pour les femmes dans le monde des affaires et de l'entrepreneuriat ». Écart de rémunération. L'étude montre aussi que les écarts de rémunération persistent entre les hommes et les femmes d'affaires. Même si les salaires des femmes ont augmenté plus rapidement que ceux des hommes au cours des dernières années, les femmes gagnent moins que les hommes en 2023, soit 88 cents par dollar de salaire versé aux hommes dans les postes de gestion au Canada. Encore là, le Québec fait bonne figure. Les femmes québécoises se rapprochent de la parité salariale dans les postes de gestion avec 95 cents par dollar, tandis que les femmes de l'Alberta sont celles qui ont le plus de rattrapage à faire. Les femmes restent sous-représentées parmi les propriétaires d'entreprises, constate aussi Marwa Abdou, auteure principale du rapport et directrice principale de la recherche au laboratoire de données sur les entreprises de la Chambre de commerce du Canada. Les femmes au Canada ne sont pas confrontées à un seul plafond de verre, mais à plusieurs, et pas à un seul échelon brisé dans l'échelle de promotion, mais à des multitudes, ce qui freine leur ascension vers une véritable égalité, a-t-elle résumé dans un communiqué. Dans les conseils d'administration, les progrès des femmes sont lents et la parité est encore loin. La proportion de femmes dans les conseils d'administration est passée de 18 % à 21 % au Canada entre 2016 et 2020, relève l'étude. En 2022, cette proportion était encore de 21 % en moyenne. Le Québec, avec 21 % de présence féminine dans les conseils d'administration d'entreprises, tous secteurs confondus, égale la moyenne canadienne, mais l'Ontario fait mieux avec 23 %. C'était « Pas de parité au cours du siècle actuel » selon un rapport, un texte d'Hélène Barry, paru le 5 mars 2024 dans la presse.